Silka se présente, la revue de presse, thème du jour scène intellectuelle française, avec Kenji et Alex. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on plonge dans la scène intellectuelle française. Et franchement, il y a de quoi faire. On a un papier de Street Press assez ahurissant sur la censure de spectacles scolaires par le rectorat de Toulouse, une relecture de Bruno Latour dans La vie des idées, un texte de Carlo Ginzburg sur Marc Bloch dans Le Grand Continent, et puis pour le 18 juin, forcément, un entretien sur De Gaulle.
Et moi, je veux qu'on parle aussi du diplôme sur les Juifs français anti-Israël et de l'hommage à Jean Ziegler dans Politis. On a de la matière. On commence par Toulouse.
Vas-y, c'est l'article qui m'a le plus secoué ce matin.
Donc Street Press raconte qu'une compagnie toulousaine, l'An 01, fait tourner depuis des années un spectacle qui s'appelle X, Y et moi dans les écoles. 500 représentations. Le pitch est satirique. Un type de Matignon propose des villes non mixtes pour régler les inégalités de genre. Bref, prétexte à un débat avec les élèves. Et depuis 2 ans, le rectorat de Toulouse les harcèle au téléphone et en avril 2026, toutes leurs dates sautent via le pass culture.
Et le détail qui tue, c'est ce message vocal que la salariée du rectorat oublie de raccrocher. On l'entend dire à son collègue qu'elle veut faire le ménage, et lui qui traite les artistes de « connards » et les lieux culturels de « baba cool ». C'est filmé comme une scène de VIP.
Sauf que c'est pas drôle. Ce qui est ciblé, c'est très précis. Harcèlement scolaire, égalité femmes-hommes, violence sexiste, LGBT, et même l'environnement. Une autre source dans l'article dit qu'aucune autre académie ne fait ça. Donc c'est pas le vademécum national, c'est un zèle local.
Le vademécum existe quand même, et c'est ça qui m'intéresse côté design institutionnel. Tu crées une charte floue, tu donnes à des fonctionnaires un pouvoir de signalement sur une plateforme centralisée comme le Pass Culture, et mécaniquement, tu obtiens de la surcensure préventive. Le rectorat se couvre des remous avec les parents, comme dit la source claire. C'est exactement le même mécanisme que la modération algorithmique sur YouTube. Dans le doute, tu démonétises.
Sauf qu'ici, c'est l'État. Et l'angle politique m'intéresse. On a un gouvernement qui a passé des années à dire « il faut parler du harcèlement scolaire à l'école » et dans la même main, son rectorat débranche les spectacles qui en parlent. C'est pas une contradiction, c'est la fonction. L'école doit traiter le harcèlement comme un problème individuel de discipline, surtout pas comme un problème structurel de genre.
Je te suis sur le diagnostic, je nuancerai juste sur l'intentionnalité. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de trouille bureaucratique pure. Mais le résultat est le même, et pour les compagnies, économiquement, c'est mortel. Tu perds le pass culture, tu perds ton modèle.
On glisse vers la tour, parce qu'il y a un fil.
Vas-y, tire-le.
La vie des idées, chronique, le bouquin de Frédéric Fruteau de Laclos, sur la tour. Sa thèse, c'est que la tour, sous l'influence d'Isabelle Stengers, à partir des années 90, abandonne la critique. Il passe de la posture de l'anthropologue, qui juge, à celle du diplomate, qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Et Fruteau de Laclos dit non, il faut ne pas en finir avec le jugement.
Et c'est exactement le débat sous-jacent à l'affaire Toulouse, en miroir inversé. Le rectorat, lui, juge à fond, mais en cachette et sans assumer. Et une partie de la gauche culturelle a passé 20 ans à se demander si elle avait le droit de juger quoi que ce soit. La tour disait « arrêtons de critiquer les modernes au nom de la pureté ». Sauf que comme le note la recension, à force de peur de la critique purifiante, tu abandonnes la critique tout court.
Ça me parle énormément. C'est une critique de gauche par la gauche et pas la rengaine réactionnaire habituelle sur la pensée 68. Le reproche c'est « ton anti-surplomb te paralyse politiquement ». Tu peux pas dire qu'un mode d'existence capitaliste extractiviste est mauvais, parce que ce serait jugé.
Et c'est intéressant que ça sorte maintenant, post-la-tour, où on commence à pouvoir faire le bilan, tranquillement. Bon, transition, parce que je veux qu'on parle de Ginzburg.
Ginzburg, sur Marc Bloch dans Le Grand Continent. C'est un texte personnel, presque émouvant. Il raconte qu'à 19 ans, à Pise en 1958, il tombe par hasard sur les rois thaumaturges, et que c'est ce livre qui lui fait décider de devenir historien.
Le geste de Ginzburg, là, il fait un truc qu'on voit rarement. Il traite la réception d'un texte comme une clé pour relire le texte lui-même. Il parle d'un lapsus de Marc Bloch. Je trouve ça fort méthodologiquement. C'est de la micro-histoire appliquée à un livre d'histoire.
Et l'autre couche, c'est la filiation. Son père, Léon Ginzburg, mort sous la torture des SS en 1944, et Bloch fusillé par les Allemands la même année. Carlo Ginzburg dit que sa relation à Bloch est filtrée par la figure du père. C'est rare un historien qui assume aussi clairement la dimension affective de son objet.
Et ça résonne avec le 18 juin, du coup. L'entretien de Florian Louis dans Le Grand Continent, avec Julian Jackson, le biographe de De Gaulle.
Alors là, je vais être un peu cynique. Le titre, c'est « L'étrange victoire du général ». Et Jackson explique comment De Gaulle est devenu la dernière figure véritablement consensuelle de la vie politique française. Moi, ce que je lis, c'est « Tout le monde se réclame de De Gaulle parce que De Gaulle ne veut plus rien dire ».
Jackson le dit lui-même, en fait. Il dit que la nostalgie est creuse. Et il compare à Churchill au Royaume-Uni. Thatcher, Farage, tout le monde s'en réclame. Ça n'a aucun effet sur la politique réelle. Et il ajoute un truc bien. De Gaulle, dans l'imaginaire, c'est devenu le Concorde, Bardot, les centrales nucléaires, les Trente Glorieuses. C'est insignifiant pour l'époque où la France allait bien.
Ce que je trouve honnête dans l'entretien, c'est qu'il refuse de jouer à qu'aurait fait De Gaulle aujourd'hui. Il rappelle que pour De Gaulle, ce qui comptait, c'était les circonstances, donc la transposition n'a aucun sens. Ça envoie balader gentiment toute l'industrie éditoriale du néo-gaullisme.
Et il y a ce point sur la République. De Gaulle n'était républicain ni par conviction d'origine, ni par cœur. Il l'est devenu par adaptation. Ce qui comptait, c'était l'État fort. C'est utile à rappeler un 18 juin, parce que la com' officielle va surtout dire l'inverse.
Bon, je veux qu'on parle de Ziegler avant la fin. Politis fait l'hommage à Jean Ziegler, mort à 92 ans. Suisse, sociologue, rapporteur ONU pour le droit à l'alimentation entre 2000 et 2008. C'est lui qui a qualifié les logiques de la faim de crimes contre l'humanité et qui a sorti Lesbos, la honte de l'Europe en 2020 sur les camps de migrants.
Ce que je retiens, c'est la trajectoire. Famille bourgeoise bernoise très à droite, un grand-père cofondateur de l'UDC, et lui devient la voix la plus implacable contre les banques suisses pour leur rôle avec l'or nazi. La Suisse, l'or et les morts en 1987. C'est une figure qui n'existe quasiment plus. L'intellectuel qui fait bouger des lignes institutionnelles depuis l'intérieur de l'ONU.
Et qui fait le lien entre les trois quarts des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui d'ailleurs. Anti-impérialisme, soutien à la Palestine, défense des migrants. Ce qui me ramène vite fait au papier du diplôme sur les Juifs français contre Israël. L'article cite Elad Lapido, qui dit un truc fort. Si un génocide est commis au nom de la protection des Juifs, alors les Juifs sont appelés à prendre position. Et c'est pas antisémite de le leur demander.
Et le diplôme note la différence avec la diaspora américaine, beaucoup plus divisée sur la question. En France, le CRIF a basculé d'une position parfois critique avant les années 2000 à un relais quasi systématique de Tel Aviv. Sylvain Sipel fait remonter le verrouillage à 1967, ce qui est une thèse classique, mais bien rappelée.
Bref, beaucoup de morts, beaucoup de bilans, beaucoup de relectures. Aujourd'hui, c'est une journée très saine intellectuelle française au sens propre. On regarde derrière nous pour essayer de comprendre où on en est.
Et on n'a même pas eu le temps de parler du papier d'Aosset sur les prisons, ni du diplôme sur le licenciement du PDG de Grasset, qui vaut le détour pour son anatomie du microcosme germanopratin. On garde pour une autre fois.
On s'en occupe demain. Allez, bonne journée.